discussion du soir. Les discussions du soir, René Friedman.
Les discussions du soir avec Axel Kahn, professeur Axel Kahn. 26e livre que j'ai eu entre les mains et ça m'a donné envie de vous connaître un peu plus. Bien que nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années en médecine et ailleurs. Être humain pleinement, vous êtes médecin généticien, vous êtes essayiste. Et quand j'ai ouvert le livre, vous le dédiez déjà à toutes les femmes, à la science et aux femmes de science. Pourquoi ?
À la science, ça va de soi. Cela n'est pas un livre de science. Cela étant dit, quand je prends position sur un problème, qu'il soit sociologique, politique, éthique, je ne peux donner mon avis, mon point de vue, qu'en rappelant d'où je suis, d'où je le donne ce point de vue.
Oui.
Or, l'endroit d'où je donne mon point de vue, c'est évidemment une vie consacrée à la science, une vie de scientifique.
Et consacrée aux femmes ?
Alors, pourquoi les femmes de science ? C'est que ça fait un bout de temps que j'indique que j'ai une admiration toute particulière pour la manière féminine d'être humain. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Il y en a deux, vraiment principales. La première, il est apparent aujourd'hui que grâce au progrès et à l'évolution des mœurs, pas partout, hélas, les us et coutumes, les hommes et les femmes peuvent vraiment faire la même chose, vraiment la même chose. Sauf une, c'est que ce sont les femmes qui donnent la vie. Et ça, évidemment, cela ne peut que m'impressionner. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point est que j'ai dirigé, vous le savez, de grandes institutions de recherche, une université. J'ai connu par conséquent des chefs d'équipe qui étaient des hommes ou des femmes. Et évidemment, ils étaient en moyenne égaux les uns aux autres. Aussi pugnaces, aussi combatifs, aussi imaginatifs.
Mais
une différence. Les hommes en général étaient totalement engagés dans le combat scientifique pour la promotion de l'équipe qu'ils dirigeaient. Les femmes aussi, mais n'oubliaient pas de prendre le téléphone pour souhaiter l'anniversaire de la belle-maman, de téléphoner à la maîtresse pour savoir ce qui était arrivé au fils ou bien s'il n'y avait pas un problème d'orientation scolaire. Les femmes font tout sans oublier de faire le reste. Les hommes, eux, sont totalement focalisés dans ce qu'ils font. Et il y a vraiment une sorte d'admiration chez moi.
Voilà, c'est dit, je comprends hein, cette façon aussi de prendre du recul peut-être, le fait d'être ouvert sur autre chose que l'objet du professionnel. Alors, vous avez deux exemples dans ce livre que vous avez inventé, on va dire, mais qui ressemblent tellement à une vérité. En tous les cas, pour Dewi et puis Eka, deux filles qui sont jumelles, qui naissent, dans un pays lointain.
Pas n'importe quel pays.
Pas n'importe
il
quel
fallait
pays.
Que dans ce pays, il y ait eu des orangs-outans. Or, comme vous savez, il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas en forêt de Meudon, par exemple.
Alors, pourquoi les orangs-outans ?
Eh bien, parce que j'ai plusieurs amis, mais j'ai deux très, très bonnes copines. Teresa et moi, je l'appelle Titine, qui sont les deux femelles orangs-outans du Jardin des Plantes. Elles sont extrêmement sympathiques. Et à chaque fois que je passe par le Jardin des Plantes,
je
vais les voir. Et il y a quelques années, il doit y avoir 5-6 ans, je crois que c'est Teresa qui avait un fils. Elle était encore avec lui, il était grand déjà, il avait 3-4 ans. Et le témoignage d'affection et d'attention réciproque entre la maman et ce fils déjà grand, c'était un ensemble bouleversant, vraiment bouleversant. On voyait la maman prendre de quoi faire une litière, la préparer pour le fils, s'allonger sur la litière, le fils venant se blottir contre elle, tous les deux se faire des câlins, c'était quelque chose d'extraordinaire.
Donc vous êtes attiré par le regard animal qui a ce contenu qu'on ne sait pas forcément déchiffrer. Mais là, dans votre livre, vous allez montrer que bien qu'ayant une génétique identique, puisque c'est deux sœurs jumelles, elles vont avoir un destin complètement différent. Puisque l'une va devenir une grande scientifique, et on va parler d'ailleurs de la science, puisque c'est votre sujet, et on touche là une des thématiques que vous adorez, c'est-à-dire la génétique et le développement. Et puis l'autre, Eka, va être un enfant sauvage. Donc une caricature, bien sûr, il y en a quelques-uns qu'on a repérés.
Il y en a une dizaine de cas dont les observations sont à peu près dignes de foi, et évidemment pour décrire les symptômes de cet enfant sauvage, je vais en reparler, c'est sur ces descriptions que je me suis basé. Donc la situation particulière des deux jumelles est inventée. En revanche, les symptômes présentés par l'enfant sauvage ne sont pas inventés.
Donc cet enfant, au cours d'un incendie, enfin ces deux enfants, l'un est sauvé et qui va devenir une grande scientifique, et l'autre disparaît parce que justement une grande femelle orang-outan passe par là et l'emporte, et voilà. On va la retrouver à l'âge de 10 ans, quelque chose comme ça. Et donc vous allez là donner un exemple concret de l'inné et l'acquis, en un mot, de l'environnement et de la génétique. Vous qui êtes généticien, Axel Kahn.
Voilà. La raison pour laquelle j'ai présenté cette forme de fable philosophique, c'est que cela me permettait de bien marquer les esprits sans me perdre dans des explications superflues. Quant à la part respective de l'inné et de l'acquis, donc, je reprends, deux sœurs jumelles, des jumelles vraies, des filles superbes, Dewi et Eka. Dewi est donc sauvée par son père le jour de l'incendie. En tentant de sauver Eka, le père meurt et il arrive quand même à mettre Eka dehors, mais une femelle orang-outan passe par là, son petit a été mangé par un léopard de Bornéo, elle a les mamelles gonflées de lait et elle se saisit de l'enfant qu'elle emporte avec elle dans les grands nids où vivent les orang-outans. Et là, l'enfant sera élevé dans cette communauté d'orang-outans pendant une dizaine d'années. Dewi sera prix Nobel de physiologie et de médecine. Une femme absolument prodigieuse, une des plus brillantes incontestablement de sa génération, et le premier prix Nobel indonésien.
Bien elle évidemment. Elle va travailler sur la salamandre, on va y revenir.
Voilà.
On va y revenir.
Voilà. Si Dewi avait eu un génome d'orang-outan, elle n'aurait pas été prix Nobel. Et donc, on voit bien ce qu'il y a d'inné. Il faut absolument qu'elle ait un génome humain pour pouvoir développer ses capacités remarquables. Maintenant, Eka a un génome humain. Elle a le même génome exactement que celui de Dewi. Mais ce génome qui lui confère la propriété de développer un psychisme humain dans l'économie relationnelle d'un groupe humain n'est pas stimulé et va dégénérer tout simplement parce qu'elle est dans l'affectivité mais pas dans l'économie intellectuelle d'un groupe humain. Elle est élevée par une maman nourricière orang-outan aimante, mais la plus belle femelle orang-outan du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Elle ne peut pas donner le langage, elle ne peut pas donner les concepts, et elle ne peut pas, par conséquent, profiter de cette propriété qu'a Eka aussi bien que Dewi, mais qui, je l'ai dit, non stimulée, va dégénérer, ce qui explique que le retard mental soit irréversible. Donc, d'emblée, on voit très bien que l'on est totalement inné et totalement acquis. Et que le vieux conflit, la vieille interrogation, quelle est la part de l'inné et de l'acquis, doit être dépassée. On est l'un et l'autre, fondamentalement.
C'est pour ça que vous dites que le développement du cerveau obéit aussi bien au mécanisme darwinien que lamarckien ?
Tout à fait. Le cerveau humain, les potentialités qu'a Dewi et Eka, c'est, selon toute évidence, du darwinisme. C'est-à-dire qu'ont été sélectionnés les propriétés du cerveau qui ont facilité sans doute la vie en commun, la vie en groupe, le développement de l'affectivité avec l'autre, qui ont facilité la co-humanisation, l'humanisation réciproque de ces humains, puisqu'il faut être deux au moins pour être deux fois soi-même. C'est absolument fondamental. Maintenant, alors ça, c'est le darwinisme. Maintenant, chez Eka, c'est le développement de ces fonctions de relation dans un groupe humain qui aurait permis de maintenir cela. Et donc, la fonction crée l'organe. Comme il n'y a pas de fonction, l'organe dégénère. Ça, c'est du lamarckisme.
Vous avez été, Axel Kahn, toujours d'une grande curiosité sur les énigmes, et même votre plongeon sur la génétique peut s'expliquer. Enfin, quand j'ai lu l'ensemble de vos livres là, c'est vrai que vous êtes marqué par une révélation, hein, une révélation, on le sait, de l'origine familiale, c'est-à-dire aussi le fait de votre issue, la judéité qui arrive à l'âge de 15 ans, votre père qui disparaît lorsque vous avez 26 ans et qui va vous laisser un message dont on va revenir dessus, et vous-même vous l'avez commenté bien sûr dans plusieurs livres, sur le côté raisonnable et soyez un homme bien.
Sois raisonnable et humain, l'injonction finale, les deux dernier mot que Jean Kahn, mon papa, est écrit de son vivant, après il s'est jeté du train dans lequel il écrivait ces mots, c'est soit raisonnable et humain.
Cela va vous habiter pendant toutes ces années.
Qui mais cela c'est... n'aurait-il pas habité ?
Bien sûr, on se demande d'ailleurs comment vous avez pu effectivement porter ces habits. C'est sûrement pas si simple. Mais cette curiosité sur laquelle je reviens, de comprendre justement peut-être les mécanismes avec les énigmes, dont celle-ci, hein, pourquoi se jeter, que vous n'avez pas la réponse, et on a bien sûr beaucoup de situations sans réponse. Vous allez plonger donc dans les compréhensions des mécanismes et dans la génétique, et vous êtes un scientifique. Quel est dans votre travail avec vos collaborateurs, bien entendu, celui dont vous êtes le plus intérieurement, hein, j'entends, fier, dans toutes vos recherches sur les enzymes, sur la transcription, sur le transfert de gènes?
Trois résultats importants qui resteront. Le plus important de tous, qui est déjà enseigné à l'école, dès la première et la terminale où on fait des sciences naturelles, c'est le mécanisme du contrôle des mouvements de fer dans l'organisme. C'est une découverte fondamentale dont bénéficieront sans doute des centaines de millions de personnes, puisque les maladies liées à un excès de fer, comme vous le savez, on appelle ça l'hémochromatose en particulier, ou bien des carences en fer ou les anémies inflammatoires frappent un nombre considérable de personnes. Il se trouve que nous avons identifié la substance qui était l'hormone principale réglant les mouvements de fer dans l'organisme et impliquée dans la totalité des maladies avec anomalie de fer. Ça, c'est le dernier résultat important que j'ai obtenu avant de prendre la présidence de l'Université Paris-Descartes ou la direction de l'Institut Cochin. Auparavant, d'un point de vue, alors c'est plus confidentiel, mais c'est important, ça avait été publié dans Nature, nous avons démontré que il était possible, par des mécanismes particuliers, qu'un seul gène arrive à coder deux enzymes différentes, deux protéines différentes avec des fonctions différentes. Et nous avons disséqué le mécanisme par lequel un même gène pouvait coder deux protéines différentes. Et entre les deux, un résultat qui est aussi très grand public, mais qui reste aussi dans l'histoire de la science, c'est que toujours dans Nature, nous avons publié le premier résultat démontrant qu'une thérapie génique locale d'un muscle pouvait corriger localement les signes de la myopathie que présentait cette petite souris présentant un modèle de la myopathie de Duchenne. Voilà, si vous voulez, trois résultats dont je puis être un peu fier.
Avec une équipe, bien sûr.
Voilà, vous. C'est pas moi, quand je dis moi, c'est l'équipe.
Oui, hein. Enfin, vous la dirigez. Voilà. J'ai envie de dire que dans cette approche donc des mécanismes, qu'est-ce que vous auriez voulu faire maintenant si vous redémarriez ?
Ça n'est pas sûr si je redémarrais. Sur le plan scientifique, sur le plan professionnel, c'est pas sûr que je choisisse de faire quelque chose de différent.
Vous l'aurez prolongé, parce que vous avez pris des positions, on va dire idéologiques, on va y revenir, aussi bien par rapport aux IGM, et là, bien sûr, qu'on a le CRISPR-Cas9, et j'aimerais bien avoir votre opinion en tant que généticien et humaniste. Alors d'abord, peut-être de dire ce que c'est.
On va rappeler ce que c'est que le CRISPR-Cas9. Depuis que le génie génétique existe, depuis, on va dire, les années 70, par conséquent, le rêve de tous les techniciens du génie génétique, des scientifiques qui font du génie génétique, ce que le grand public connaît sous le nom de recombinaison d'ADN ou manipulation d'ADN, c'est d'arriver à modifier exactement comme on le veut le génome, les gènes, en ajouter, en enlever, en modifier le langage, en modifier l'alphabet. Et jusqu'à présent, on le faisait avec beaucoup de tâtonnements, et des résultats en partie aléatoires. On le fait depuis très longtemps, c'est le génie génétique. En ce sens, CRISPR-Cas9, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais CRISPR-Cas9 est un ensemble, un outil qui n'est pas une révolution conceptuelle, parce que ce que l'on peut faire grâce à CRISPR-Cas9, c'est ce qu'on faisait par d'autres moyens, simplement beaucoup moins efficace. Il permet d'envisager que l'on va atteindre le Saint Graal du génie génétique, c'est-à-dire effectivement, avec une très grande simplicité, pouvoir modifier exactement comme on le désire, sans erreur, sans incertitude, tous les génomes. C'est ça que permet de faire CRISPR-Cas9.
Donc, peut-être une traduction, c'est des ciseaux moléculaires.
Ciseaux moléculaires très précis.
On peut couper une part particulière du génome et éventuellement après remplacer.
Voilà, ça n'est pas simplement un ciseau moléculaire. C'est un ciseau moléculaire très 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 précis, mais qui peut en même temps véhiculer une nouvelle séquence que l'on veut insérer et par un biais particulier pour la lutte biologique contre des insectes ravageurs ou des insectes vecteurs d'épidémie, le virus Zika par exemple, on peut envisager d'infecter des virus Zika avec une construction qui va inactiver un gène de virulence, qui va rendre le virus Zika tout à fait non dangereux. Et à chaque fois que le virus Zika se reproduira, alors il transmettra cette capacité à inactiver les gènes, c'est-à-dire que l'on pourrait diffuser dans une population une modification génétique d'une population entière.
Donc les modifications génétiques, on peut le voir sur les grandes maladies qui sévissent dans le monde, ça pourrait être utilisé.
Tout à fait, et on y pense très très singulièrement aujourd'hui. Bien évidemment, tout pose une difficulté, c'est que là il s'agit de modifications génétiques où il n'est plus question de parler de confinement. Puisque au contraire, c'est la diffusion que l'on cherche. Donc il faut être absolument certain que le mécanisme ne va pas se détériorer. Absolument. Il va pas, si vous voulez, couper ailleurs de l'endroit où il doit couper, entraîner de nouvelles propriétés. Je suis le nouveau président du comité d'éthique des organismes de recherche qui, en France, s'occupe de ces questions. L'exploitation de la mer, de la terre, l'INRA, l'IFREMER et le CIRAD. Et justement, c'est la saisine principale que nous sommes en train d'étudier.
D'accord,
c'est un gros travail.
Mais comment s'assurer, avant même que ce ne soit utilisé, qu'il n'y a pas d'autres effets collatéraux non voulus?
Alors pour cela, il faut tout d'abord faire des expériences, on le connaît très bien en clinique, on fait des essais de classe 1, 2, 3 et 4. C'est-à-dire que entre la diffusion du médicament, généralement, il y a une biovigilance, c'est-à-dire tout d'abord en milieu ouvert, mais aussi contrôlé que possible, on va dire dans des cages avec des filets pour ce qui est des moustiques, si on parle de moustiques, et puis essayer au maximum d'avoir le maximum de renseignements expérimentaux. Par la théorie, essayer de vérifier que le système a tendance ou pas tendance à se dérégler et à un moment donné, prendre la décision. C'est ainsi que on opère en science, comme vous le savez. Donc, technique et en science, car il y a de la technique outre de la science ici.
Alors, on parlait tout à l'heure de la salamandre, la régénération. Donc ça, c'est vrai, c'est un autre sujet.
C'est fascinant, n'est-ce pas?
C'est totalement fascinant. Donc, effectivement, la salamandre, si on lui enlève un bras, un œil...
Et même un bout de cœur.
Ah bon? elle va le reproduire,
régénérer,
elle va le régénérer. Et c'est vrai que sur le plan cellulaire, cette régénérescence... passionne le scientifique que vous êtes.
Oui.
Vous avez même écrit un livre dessus.
Absolument, Le secret de la salamandre. Quand on coupe un membre, par exemple, à une salamandre, il se forme, dans un premier temps, au lieu d'une cicatrice, un bourgeon que l'on appelle un bourgeon de régénération. Et c'est à partir de ce bourgeon de régénération que tous les constituants du nouveau membre vont se former. Et dans le livre « Être humain pleinement », Dewi, mon héroïne, qui aura le prix Nobel pour cela, alors qu'elle est étudiante à la faculté des sciences, à l'université de Jakarta, et qu'elle prépare l'équivalent de son master chez nous, fait une découverte extrêmement intéressante.
Passionnante. Oui.
Voilà, elle prend un bourgeon de régénération, elle le fractionne en différentes parties, et l'une de ces fractions est capable d'inciter des neurones de petites souris, censés être incapables de se diviser, les inciter à entrer en division, et donc potentiellement à régénérer. Elle publie cela dans une bonne revue, pas une revue internationale à l'époque, mais ça attire l'attention, et c'est grâce à ce premier résultat, d'abord qu'elle commence sa carrière fulgurante qui, à 42 ans, lui vaudra le prix Nobel de physiologie et de médecine, seul, ce qui est exceptionnel, premier prix Nobel indonésien.
Ah, je vais l'inviter.
Voilà, il faut que vous l'invitiez. En plus, elle est d'une beauté. Absolument, elle est d'une beauté absolument incroyable. Et ce qui lui permettra, par conséquent, d'être accepté pour faire sa thèse à Amsterdam, un post-doc à Princeton, et enfin d'avoir un poste fixe à l'Université Polytechnique Fédérale de Lausanne. J'y étais avant-hier. Le PFL.
Et donc, dans ces modifications du génome qui vous passionnent, vous avez pris des positions. Par exemple, vous n'êtes pas contre les OGM?
Non, c'est difficile pour un généticien d'être, entre guillemets, contre les OGM. Je suis contre les OGM si on veut en faire un mauvais usage. Si on veut, avec les OGM, essayer d'éviter des carences alimentaires, Si l'on veut, avec un OGM, essayer de trouver des solutions, des nouvelles variétés qui résistent mieux à la sécheresse, etc., etc. Ça me semble intéressant. Ma position n'est ni pour ni contre les OGM, elle est de principe. Elle est que le défi alimentaire, aujourd'hui, est même assez considérable. Parce que même si la population ne dépasse pas 9 milliards ou 10 milliards d'habitants, on croit aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des goûts dans le monde, on sait qu'il faut qu'on arrive, en 25 ans, à doubler la production alimentaire. La production végétale. Production végétale, parce que les animaux, ils mangent des végétaux, de l'herbe, etc. Il faut doubler. C'est pas facile, parce que on peut pas se servir de l'irrigation. Il faut au contraire économiser l'eau. Il faut surtout pas utiliser plus de pesticides. Il faut en utiliser moins. Ça n'est pas le machinisme agricole qui va permettre de faire cela. Et il reste évidemment l'amélioration des variétés. La sélection variétale classique. Et compte tenu de l'importance du défi, je ne dis pas du tout que les OGM, c'est un passe-partout, c'est merveilleux. Je dis que ce ne serait pas sage de s'en passer a priori. Voilà ce qu'est ma position.
Dans ce débat qu'on a repris avec Dewi et Eka, vos deux héroïnes dans votre dernier livre, Axel Kahn, qu'on a abordé ensemble, l'inné et l'acquis, enfin, très, très superficiellement, est-ce que vous pensez que des stress, des émotions peuvent se transmettre ?
Alors, on sait aujourd'hui que des émotions et des stress peuvent se transmettre et cela a fait l'objet d'une expérimentation qui est bien connue. Je vais en relater les principales données. On prend un rongeur de laboratoire, des rats ou des souris gravides, et durant la grossesse, on les soumet à des situations terriblement stressantes. On constate que quand on regarde la portée, et qu'on la regarde alors qu'elle grandit, qu'elle devient adulte, les tests comportementaux témoignent de ce que cette portée de ces mamans stressées ont une sensibilité au stress très augmentée par rapport à la moyenne des animaux. Mieux même, cette sensibilité accrue se poursuit pendant quelques générations. Et donc, vous voyez bien ici, très clairement, qu'il y a, c'est de l'épigénétique. Vous voyez bien ici qu'il y a un caractère acquis au cours de la grossesse, du fait des conditions dans lesquelles, qu'est-ce qui se passe? La maman stressée va sécréter des hormones, des neuromédiateurs, des machins, des trucs qui vont un peu modifier les manchons qui sont autour des gènes et qui en contrôlent l'activité. Et donc, évidemment, du fait de cette modification de ces manchons, ces enfants, là, ces enfants, c'est pas des enfants, ces ratons ou ces souriceaux, eux aussi.
Mais on peut penser que c'est identique chez l'humain.
On peut penser que c'est pareil pour les enfants. On a un cas, je le raconterai après, un cas qui n'est pas lié au stress, mais qui en témoigne très clairement dans l'espèce humaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand les brins d'ADN se divisent, les manchons régulateurs, qui en contrôle l'activité de ces gènes, eux aussi doivent se reformer. Eh bien, un manchon modifié conditionne la synthèse d'un nouveau manchon modifié lui aussi. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, les gènes sont l'élément fondamental de la transmission. Mais il n'y a pas que les gènes. Il y a aussi, pour quelques générations en tout cas, ça s'estompe en fait, pour quelques générations en tout cas, il y a une transmission de caractères acquis, c'est l'épigénétique. Alors, dans l'espèce humaine, ce que l'on connaît très bien, mais vous-même, René Friedman, vous le savez bien, parce que c'est maintenant dans tous les ouvrages sur la néonatologie, durant les années 46-47, les femmes hollandaises ont souffert d'une malnutrition absolument considérable. Voilà. Et les enfants, évidemment, ont eu un petit poids. Ils ont plus que les autres, beaucoup plus que les autres, développé des diabètes et des hypertensions artérielles. Et bien, leurs enfants aussi, en une certaine mesure. Donc là aussi, clairement, il s'agit d'une transmission épigénétique.
Donc vous êtes donc au cœur de la recherche scientifique, vous avez été, mais vous suivez bien sûr, de son application dans la société, on va y revenir, et aussi de la compréhension, on va dire, philosophico-éthique de toutes ces notions. C'est-à-dire que la génétique, c'est une chose incontestable, l'épigénétique, c'est une modalité, et l'acquisition des caractères doit aussi rentrer en ligne de compte. Ce qui montre que c'est beaucoup plus complexe que tout ce que l'on essaye de faire passer idéologiquement en s'appuyant soit sur la génétique à tout prix ou pas. Je pense à ça, évidemment, en tant que médecin de la reproduction, avec ces contradictions que l'on voit aujourd'hui entre le recours à des dons de gamètes, où on va dire que ce qu'il importe, ça va être justement de pouvoir élever cet enfant, l'aimer, l'accompagner et pendant la gestation. Et puis une autre forme qu'on appelle la GPA ou la gestation pour autrui, où là on dénie complètement le lien qui pourrait se passer pendant la gestation entre...
Voilà, on sait aujourd'hui que les deux importent en réalité. Vous vous rappelez bien en 2007 la querelle entre Michel Onfray et le candidat Nicolas Sarkozy sur l'hérédité de certains caractères comme
vous
la tendance au suicide.
Vous êtes intervenu fortement.
Voilà, où je suis intervenu.
Parce que Nicolas, pour le rappeler, Sarkozy avait
disait que aussi bien les perversités, la pédophilie ou d'autres, ou alors la tendance au suicide, chacun savait bien que c'était quelque chose de totalement inné, dans l'inné et l'acquis, c'était vraiment l'inné qui importait plus, alors que tout à fait dans la tradition, alors ça c'est la tradition classique de la vieille droite, tout à fait dans la tradition de la, pas si vieille gauche que ça, mais d'une gauche en tout cas plus moderne, Onfray disait que non, les gènes ne font rien et tout est dû à la société. Ils avaient tort tous les deux.
Voilà.
C'est-à-dire qu'en réalité, évidemment que les gènes ils font quelque chose, mais évidemment qu'ils font pas tout. J'ai dit simplement que Onfray voulait pas être président de la République. Et donc, le tort principal était celui de Nicolas Sarkozy. Je crois pas que le tort principal était celui de Nicolas Sarkozy, parce que voulant être président de la République, dire cela, c'était par avance dire, écoutez, les désordres de la société que je dirige, que je construis, n'y est forcément pour rien, tout est inné. Et ça, évidemment, on peut pas l'accepter.
Bien sûr. Alors, comme on est dans cette évolution qu'on qualifie peut-être de transhumanisme, c'est-à-dire d'amélioration, on va pas débattre de ça, Axel Kahn, mais je pense ce point-là parce que ça suscite quand même votre réflexion sur la notion de dignité, d'autonomie et de liberté. Et dans tous vos livres, en particulier dans Un type bien ne fait pas ça, ce livre remarquable, où vous vous épanchez, vous ouvrez votre cœur et vos pensées, il y a quand même quelque chose de très fort sur cette réflexion éthique, mais ce sont des mots qui peuvent être galvaudés, et j'aimerais avoir la position d'Axel Kahn.
Le terme de dignité en particulier est un terme d'une extrême difficulté d'utilisation, extrême difficulté, puisque l'on oscille toujours entre deux conceptions. La dignité, les honneurs que l'on confère, c'est une dignité qui est conférée par une autorité extérieure, par Dieu, c'est Dieu qui rend digne, mais enfin il faut en faire réellement l'hypothèse si on fait cela. Et puis une notion au contraire totalement autonome, qui consiste à dire le mot dignité ne doit pas du tout être utilisé parce que il est contraire à l'autonomie, à la liberté vraiment fondamentale de chacun. Moi, je considère que il faut néanmoins, on ne peut pas se passer du terme de dignité, mais en considérant effectivement que la dignité ne peut être définie que par la personne elle-même, par la personne en elle-même. Personne ne peut me dire que je suis indigne. Déclaration hétéronome venant de l'extérieur de moi-même, de ma dignité, est nulle et non avenue. J'ai été nommé par Nicolas Sarkozy à la commission qui était chargée, sous la présidence de Simone Veil, de réformer, de modifier, de lui proposer une modification du préambule de la Constitution française.
Oui, justement, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez apporté, où est-ce qu'on en est ?
J'avais proposé que le préambule de la Constitution française, ça avait été retenu, on l'a proposé à Nicolas Sarkozy, que le préambule de la Constitution française se calcasse sur celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les hommes naissent et demeurent égaux en dignité et en droit. Alors que la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens ne met pas la dignité, ne met que le droit.
Est-ce que je peux faire une parenthèse, oui. Axel Kahn ? Vous savez que l'abbé Grégoire, qui a écrit ce préambule, en fait, dans sa première version, disait que tous les hommes naissent égaux en droit et en devoir.
Ouais.
Et le « et en devoir » a été enlevé.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui ?
Ça me semble très intéressant. Je préfère le terme de dignité à celui de devoir et je vais vous en donner un exemple. Je suis aussi président du comité éthique et cancer et régulièrement, la question vient du devoir du malade cancéreux. qui parfois est effectivement tout à fait infernal. Il est malheureux, il est dans une situation difficile, il n'empêche qu'il est parfois totalement insupportable, il peut être méchant, agressif, etc. Or, moi, systématiquement, dans cette relation particulière, je suis pour la symétrie. C'est-à-dire que, incontestablement, je considère que le médecin a un devoir envers son malade, et j'ai quelques difficultés à mettre en avant le devoir du malade envers son médecin. En revanche, bien évidemment, le médecin, comme le malade, sont dépositaires d'une dignité que personne d'autre qu'eux-mêmes ne peuvent leur dénier. Et donc, mon sentiment, c'est que nul n'est à même de pouvoir hiérarchiser les individus en fonction de leur dignité. Car c'est une propriété intrinsèque de l'être en tant qu'il est.
Je reviens sur le mot devoir, parce que dans le cas que vous prenez, c'est une particularité d'une situation qui effectivement est déséquilibrée. On ne peut pas exiger le même devoir de quelqu'un qui est dans la difficulté. Mais dans l'idée de l'abbé Grégoire, c'est au moment de la naissance, c'est le devoir vis-à-vis des autres, c'est-à-dire de chacun considérant les autres comme justement à égalité. Et ce point-là, je trouve qu'on devrait y revenir.
Non, je suis tout à fait d'accord avec cette idée de l'abbé Grégoire. D'ailleurs, je vous rappelle, c'est tout à fait le thème en particulier de « Être humain pleinement » que je rappelle...
Votre livre.
Voilà, le livre. Que je rappelle combien on ne peut être humain que parce qu'on est humanisé par le contact avec l'autre.
Voilà.
Et que par conséquent, l'autre est indispensable pour que l'on soit soi et en est indispensable pour qu'il soit lui. D'ailleurs, et par conséquent, c'est effectivement un impérieux devoir. Mais je parlais, si j'ai le choix, entre le terme devoir et le terme dignité. Je vous disais la raison pour laquelle je pense que le terme dignité a une valeur qui est plus universelle.
Et d'ailleurs, vous reprenez le mot que seul l'humain peut être inhumain.
Oui, bien évidemment. Lorsque pervers épouvantable arrive à jouir de la détresse, de la douleur, de l'épouvante qu'il crée chez sa victime et augmente encore son niveau d'intervention inhumaine, il ne connaît aucun animal qui se comporte comme cela. Aucun. C'est vraiment une propriété totalement humaine. Et donc, dire il est totalement inhumain, oui, mais et aussi, hélas, et ô combien humain.
Bien sûr, quand on parle de dignité, le débat de ces dernières années a tourné autour des premiers stades de l'humain, c'est-à-dire le stade de l'embryon qui, depuis, bien sûr, la fécondation in vitro est devenue visible, est devenue palpable. Et nous avions eu d'ailleurs l'occasion au cours de ces années de compagnonnage de discuter de ces points-là.
On n'était pas en désaccord sur ce point.
Non, il y avait quelques orientations.
On a eu quelques désaccords, mais pas sur ce point-là, autant que je me le rappelle.
Juste ce qu'il fallait pour se stimuler, mais vous n'étiez pas très pour le clonage thérapeutique à ce moment-là. Mais la question que je vais vous poser...
Oui, mais j'avais raison, parce que plus personne ne parle de clonage thérapeutique.
Enfin, tout le monde parle de cellules souches.
Ah oui, j'ai rien à voir, j'ai jamais été contre les cellules souches. Demander que l'on puisse au contraire travailler sur les cellules souches quand j'étais au comité consultatif national d'éthique. Donc ce contre quoi j'étais, c'était la fabrication d'embryons clonés soi-disant à des fins thérapeutiques. On pourra en reparler. Si
non, mais moi j'ai jamais été pour la fabrication d'embryons. J'étais pour éventuellement quand des embryons n'avaient pas de destinée et qu'elles avaient des cellules souches.
Ah oui,
alors qu'on n'avait pas créé encore les fameuses IPS.
Non mais on est
IPS.
D'accord. Oui,
on
est d'accord.
On se retrouve.
C'est ma position constante.
La question elle est là, sur les embryons. Nos collègues chinois ont quand même fait des études. Je reviens sur CRISPR-Cas9. En essayant de les utiliser sur des embryons qui, certes, n'étaient pas destinés à être implantés, mais qui visent à modifier le génome humain à ce moment-là, sans aller plus loin. Votre réaction là-dessus, Axel Kahn ?
Ce qu'il y a, ce que les auditeurs doivent bien comprendre, parce que vous, Monsieur Friedman, vous le comprenez naturellement.
Qui sait ?
C'est que le but de l'utilisation, c'est de réparer une mutation qui est responsable d'une maladie génétique, faire ce que l'on appelle de la thérapie génique germinale. Mais évidemment, pour faire de la thérapie génique germinale sur un embryon, il faut d'abord savoir si l'embryon, il est malade ou pas, c'est-à-dire s'il est porteur de la mutation ou pas. C'est-à-dire qu'avant de faire de la thérapie génique germinale sur un embryon, il faut faire un diagnostic préimplantatoire, un diagnostic avant l'implantation de l'embryon. Mais compte tenu des lois de la génétique, quand on fait un diagnostic sur des embryons à la phase préimplantatoire, on a toujours sous la main, en principe, à part dans 1 ou 2% des cas tout à fait particuliers, on a toujours sous la main des embryons sains et des embryons avec la mutation. Reconnaissez tout de même qu'en pratique, c'est plus sûr de mettre dans le ventre de la maman les embryons qui ne portent pas la mutation, tri d'embryons, plutôt que de traficoter avec une petite incertitude quand même.
Une bonne incertitude.
Quand même, les embryons malades. Et donc, on va reparler du transhumanisme. Et donc, à 1 ou 2% d'exception près, très particulier, mais c'est compliqué. Il n'y a pas d'indication de la thérapie génique germinale dans les conditions où on pourrait l'appliquer pour débarrasser un lignage d'une maladie génétique. En revanche, évidemment, si on veut créer des lignages humains améliorés, alors là, oui. Et ceux qui, c'est un peu comme du temps du clonage thérapeutique, les gens qui essayaient de faire autoriser par le Parlement le clonage thérapeutique, c'est parce qu'ils avaient très très envie, en réalité, de cloner des embryons humains. Là, les gens qui disent, vous vous rendez compte, c'est un merveilleux outil de thérapie génique germinale, en fait, ce qu'ils ont en tête, c'est l'utilisation de la méthode pour améliorer l'humain. Et ça, effectivement, améliorer l'humain, ça nécessiterait de modifier le génome, si jamais ça n'était pas totalement un fantasme, au niveau préimplantatoire. Donc c'est ça qu'il faut discuter. Il faut pas accepter les faux-semblants, quand même. Nous sommes, vous et moi, des gens exigeants.
Deux points, vu le temps qui passe, Axel Kahn. J'ai remarqué dans vos écrits cette sensibilité à la beauté de la nature, particulièrement dans vos deux grandes marches, qui restent quand même assez exceptionnelles, hein, puisque vous avez fait des milliers de kilomètres à pied, en traversant la France deux fois, et ce qui a produit deux livres, qui permettent de voir effectivement la France en profondeur, sur plein d'aspects, y compris politiques. Mais ce que je trouve, c'est votre sensibilité à la nature, d'une façon générale, l'émerveillement que vous... Cette curiosité, cet émerveillement que vous manifestez. Et toujours au généticien, Axel Kahn, la capacité au bonheur, à cet émerveillement, est-elle génétique ?
Alors, je crois qu'il n'y a pas de doute que la capacité à éprouver une émotion confrontée à un spectacle que l'on considère beau est d'origine génétique, correspond à un caractère évolutif qui a été acquis par les premiers lignages humains, il y a très longtemps, et on a des indications pour penser qu'il a été acquis dès le début de l'humanisation, il y a 1 800 000 ans en tout cas. Pourquoi disais-je cela ? C'est qu'il y a 1 800 000 ans, on voit que les tailleurs de pierre se mettent à tailler leurs outils avec une perfection formelle qui outrepasse de loin l'usage auquel on réserve ces pièces. Comme si ces tailleurs de pierre avaient ressenti une satisfaction à cette perfection de ce qu'ils avaient façonné. Autant qu'on le sache, aucun autre animal que l'animal humain a cette caractéristique. Et je pense que l'humanisation a comme marqueur très précoce cette capacité, transmissible ensuite, d'éprouver de la beauté, de projeter un sentiment de beauté sur un spectacle, un objet, qui dès lors va créer un sentiment, une émotion agréable. Ensuite, ce sentiment de beauté va être un accélérateur de la structuration des sociétés. Parce que l'émotion partagée devant la beauté fait société. Parce que très tôt, la beauté a été utilisée pour tout le rituel symbolique, le rituel de la mort, ensuite les religions. Parce que très tôt, l'objet beau est objet de commerce. On a un exemple où il y a 100 000 ans environ, il y a manifestement un commerce entre des populations qui vivent au bord de la mer et qui vendent des coquillages percés pour faire des colliers et des gens à l'intérieur qui doivent échanger quelque chose vraiment à la place. Parce que c'est un objet de hiérarchisation sociale, de pouvoir, etc., etc. Donc oui, je pense que cet élément qui fait partie des caractères pour lesquels code le génome humain, cet élément d'éprouver de la beauté est essentiel pour fonder notre humanité. Être humain pleinement, sans laisser la place qui lui revient à cette émotion de la beauté, parfois à cette expérience du sublime, c'est ne pas l'être totalement, pleinement humain.
Donc on peut avoir l'expérience du sublime tout en étant athée ou agnostique.
Oui, tout à fait. Moi, je suis totalement agnostique, mais vraiment d'un agnosticisme d'airain. Et alors que mon âge avance, j'ai aussi peu de doutes quant à la suite des choses quand je serai mort que j'en avais lorsque j'ai perdu la foi.
Mais pourquoi agnostique et pas athée ?
Oh, je devrais dire athée au point de vue étymologique. Mais souvent les athées...
Peut-être on définit.
Oui, souvent les athées, athée c'est athéos, c'est sans Dieu. Alors moi je suis totalement sans Dieu. Dieu, je n'en fais nullement l'hypothèse. Voilà, donc je suis athée. Mais aujourd'hui athée est utilisé pour définir les pourfendeurs de la religion, qui veulent l'extirper, ce mal absolu de la raison, de l'esprit des gens. Mon ami Onfray est athée, il est clairement athée. Il a fait d'ailleurs un précis de la théologie, un manuel de la théologie. Moi, je considère que l'idée de Dieu ou de pas Dieu est profondément personnelle aux gens, intérieure aux gens, et j'ai rien à dire de la religiosité des autres. Strictement rien à dire. Tout ce que je peux dire, c'est que pour ce qui me concerne, je n'en fais pas l'hypothèse et je ne vois pas la nécessité d'en faire l'hypothèse.
Comme président de l'université, vous étiez confronté à un moment donné avec le port de certains signes distinctifs, en particulier le voile, à l'université. Votre position est très claire là-dessus, c'est-à-dire ?
Oui, je considère que l'université est un espace public où il y a des adultes et que les règles qui s'appliquent sont les règles d'une république laïque, c'est-à-dire que chacun peut s'habiller comme il le veut. Voilà, c'est aussi clair que cela. Et donc, l'idée d'interdire les gens qui vont à la synagogue de porter une kippa, des papillotes ou des tzitzit à leurs pantalons, me semble, alors que moi-même, j'en porte pas et je trouve ça un peu ridicule, me semble tout à fait aberrant. L'idée d'empêcher des femmes d'avoir un foulard sur la tête me semble également aberrant. Il se trouve que c'est une des définitions de la laïcité. Je suis tout à fait favorable à l'interdiction à l'école, tout simplement parce que la laïcité, c'est la neutralité. Et donc, l'école laïque, par définition, est forcément neutre. Je suis tout à fait d'accord avec l'interdiction du voile pour tous les agents publics, parce que la laïcité, c'est la neutralité. Et je suis d'accord pour l'interdiction de la kippa, du niqab, du voile intégral, parce que le visage, les yeux qui pétillent, les joues qui rosissent, le sourire qui illumine la face, ça fait humanité. Et dénier à des personnes, à des femmes, la possibilité de montrer ce visage est vraiment une agression contre l'idée d'humanité qui m'est insupportable et qui est insupportable à la République. Donc voyez, ma position est en effet très claire.
Sur la République, puisque vous prononcez ce mot et qu'on arrive dans la période présidentielle, qu'est-ce que vous diriez, vous qui avez été militant sur Sauvons la Recherche, et quel est le message que vous aimeriez entendre, un engagement que vous aimeriez entendre,
Écoutez, vu la manière dont va se dérouler, je le crains sans doute, la prochaine campagne, j'ai des vœux qui sont assez modestes.
Parce que n'oublions pas, vous avez été candidat contre Fillon.
Absolument, j'ai été candidat.
Vous avez fait quand même 34% des
voix.
Voilà.
Et je l'ai battu de 10 points dans mon quartier latin quand même. Hein, c'est ma fierté. Jamais la gauche n'a fait un tel score dans le quartier latin. Bon, donc j'ai un vœu extrêmement modeste, c'est que le peuple français n'ait pas trop honte de cette campagne et n'ait pas trop honte du candidat qu'elle choisira. Ça n'est pas assuré.
Vous laissez un message ?
Simplement celui-là.
Simplement celui-là. Merci Axel Kahn pour cette discussion que j'ai pu réaliser grâce à la collaboration de Catherine Donnet, Didier Lagarde et Emmanuel Couturier. C'est Discussion du soir que vous pouvez retrouver sur le site internet de France Culture, franceculture.fr, et sur le site de notre partenaire, Le Quotidien du Médecin, avec qui nous sommes en collaboration. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Agnès Buzyn, qui est la première femme présidente de la Haute Autorité de Santé.